VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manelakis à la présentation de cette édition du lundi 20 septembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Rwanda, Paul Rusesabagina, héros de Hôtel Rwanda, condamné à 25 ans de prison pour terrorisme. Burundi, deux morts dans une attaque à la grenade à Gitega, la capitale politique. Des milliers de migrants haïtiens qui avaient envahi une zone du Texas ont été envoyés à Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Législative russe, l'opposition crie à la fraude, le Kremlin se targue d'une super majorité. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Quatre militaires maliens ont été tués lundi par l'explosion d'un engin sur l'axe Bankas-Sévaré dans le centre du pays au passage d'un convoi d'évacuation médicale. L'ambulance transportait un officier blessé dans une précédente attaque vers l'hôpital de Sévaré près de Mopti. Cinq militaires ont été tués le 12 septembre dans une embuscade tendue par des djihadistes dans le cercle de Massina dans le centre du Mali. Toujours au Mali, la ministre française des armées Florence Parly a rencontré lundi le gouvernement de transition à Bamako. Malgré l'inquiétude de Paris sur un éventuel recours à une société de sécurité russe Wagner et de la tenue d'élections en février, Madame Parly a assuré que la France resterait militairement engagée au Mali. La réorganisation en cours de son dispositif au Sahel se fait au profit d'une présence resserrée centré sur les frappes ciblées contre les chefs et cadres djihadistes et l'accompagnement des armées locales. Deux personnes ont été tuées et 8 autres blessées dimanche soir par l'explosion d'une grenade dans un bar de la capitale burundaise Gitega, a déclaré une source policière. Cette attaque intervient moins de 2 jours après des tirs de mortier revendiqués par le groupe rebelle Red Tabara sur l'aéroport de la capitale économique Bujumbura, qui n'avait pas fait de dégâts. Les précisions avec Niwa Kapumbu Villa.
L'explosion de la grenade a tué 2 personnes sur le coup et 8 autres personnes blessées ont été conduites dans plusieurs structures sanitaires de Gitega pour être soignées, a déclaré un officier de police qui a requis l'anonymat. Selon une deuxième source sécuritaire, le bar appartenait à un officier de police et y étaient réunis de nombreux officiels et membres du parti au pouvoir. Cette attaque intervient moins de 2 jours après des tirs de mortier revendiqués par le groupe rebelle Red Tabara sur l'aéroport de Bujumbura, la capitale économique, mais n'a pas fait de dégâts et le trafic aérien a continué. Apparu il y a 10 ans, le Red Tabara est le plus actif parmi les groupes rebelles burundais. Toutes ces attaques ont eu lieu au moment où le président Évariste Ndayishimiye doit se rendre à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Chez le voisin du Burundi, le Rwanda, Paul Rusesabagina, ancien directeur d'hôtel dépeint en héros dans le film hollywoodien Hôtel Rwanda, a été reconnu coupable ce lundi de terrorisme par un tribunal rwandais. Il a été condamné à 25 ans de prison. Les précisions de Jean-Roger Billon.
Le verdict a été prononcé en l'absence du prévenu et de ses avocats qui boycottent les audiences depuis le mois de mars, dénonçant un procès politique. Les procureurs avaient requis une peine de prison à vie sur la base de 9 chefs d'accusation, dont terrorisme, incendie criminel, prise d'otage et formation d'un groupe rebelle armé. L'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines était jugé pour son soutien au Front de Libération Nationale, un groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Le tribunal conclut que son rôle dans la création du FLN, la fourniture de fonds et l'achat de moyens de communication pour les rebelles constituent tous le crime de commission de terrorisme, a déclaré Béatrice Mukamurenzi, une des 3 juges du tribunal de Kigali. Paul Rusesabagina, 67 ans, a nié toutes les accusations, alors que ses partisans ont qualifié le procès de simulacre. Il a été arrêté l'année dernière à Kigali en provenance de Dubaï. L'opposant virulent au président Paul Kagame a déclaré avoir été enlevé par les autorités rwandaises pour être livré à la justice.
Washington craint que Paul Rusesabagina n'ait pas eu un procès équitable. La Belgique a estimé qu'il n'a pas bénéficié d'un procès juste et équitable. Amnesty International a dénoncé dans un communiqué lundi de nombreuses violations de ses droits. La fondation Clooney a estimé que, compte tenu de l'âge et de la mauvaise santé de M. Roussé Sabagida, cette peine sévère est susceptible d'être une condamnation à mort. Pour la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, justice a été rendue et les Rwandais se sentent plus en sécurité, a-t-elle estimé sur Twitter. Les États-Unis ont condamné lundi un récent discours prononcé par un allié politique de premier plan du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a comparé les rebelles de la région du Tigré au diable et estimé qu'ils devaient être les derniers de leur espèce. Le Conseil d'État libyen, instance faisant office de Sénat, a proposé lundi un report d'au moins un an du scrutin présidentiel prévu en décembre dans le cadre d'élections générales, faute de consensus sur la loi électorale. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a taxé lundi le pays de dictature constitutionnelle. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, est en train de passer d'une démocratie constitutionnelle à une dictature constitutionnelle, clame-t-il dans un communiqué. Incarcéré en juillet, M. Zuma, 79 ans, sa condamnation à 15 mois de prison pour outrage a été définitivement confirmée la semaine dernière par la justice. Il est en liberté conditionnelle pour raisons médicales depuis début septembre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis laisseront entrer à partir de début novembre tous les voyageurs en provenance de l'étranger à condition qu'ils soient entièrement vaccinés contre le Covid-19, a annoncé lundi la Maison-Blanche. Les voyageurs devront de plus se faire tester dans les 3 jours avant leur voyage vers les États-Unis et porter un masque. Par ailleurs, un système de suivi des voyageurs sera mis en place par les compagnies aériennes. Washington lève ainsi des restrictions qui pesaient depuis mars 2020 sur les voyageurs en provenance de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de Chine, puis de l'Inde ou du Brésil. Les autorités haïtiennes ont achevé en fin d'après-midi hier l'enregistrement de leurs ressortissants expulsés des États-Unis. En moins de 2 heures, 3 vols partis du Texas ont atterri à Port-au-Prince. 3 nouveaux vols sont prévus ce lundi. Des précisions avec Nathalie Barge.
Les États-Unis avaient suspendu les expulsions d'Haïtiens en situation irrégulière suite au séisme le 14 août. Mais le regroupement massif de quelque 15 000 migrants sous un pont au Texas a poussé les républicains et certains démocrates à exhorter Joe Biden à régler la situation. Les familles expulsées vers Port-au-Prince hier croyaient pouvoir bénéficier de l'extension du statut migratoire spécial, mais l'administration Biden a étendu l'octroi du TPS aux ressortissants qui se trouvaient sur le sol américain avant le 29 juillet. La semaine dernière, de nouveaux migrants, dont une majorité d'Haïtiens, sont arrivés depuis le Mexique à Del Rio, au Texas, en traversant le fleuve Rio Grande. De moins de 2 000 en début de semaine, ils étaient près de 15 000 samedi, selon les autorités de la ville frontalière. Plus d'1 300 000 migrants ont été interpellés à la frontière avec le Mexique depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche en janvier, un niveau inédit depuis 20 ans.
En Russie, le parti du président Vladimir Poutine a affirmé avoir emporté plus des 2/3 des sièges de députés à l'issue des législatives, conservant ainsi la majorité nécessaire pour modifier la constitution sans l'appui d'autres formations. L'opposition russe dénonce des fraudes massives. Claire Morégibourg.
La formation Russie Unie est créditée de 49,85% des voix, selon des résultats portant sur plus de 99% des bureaux de vote. La présidente de la commission électorale a confirmé que Russie Unie a remporté plus des 2/3 des sièges à la Douma, la chambre basse du Parlement. Le parti de Vladimir Poutine va ainsi disposer de plus de 300 députés sur 450, ce qui est largement suffisant pour réviser la Constitution. L'opposition russe, interdite de scrutin à l'instar d'Alexei Navalny, emprisonné, a dénoncé des fraudes massives, bourrage d'urnes, falsification du vote en ligne, observateurs exclus du comptage des bulletins, des soupçons de violation que Berlin a demandé à tirer au clair, tandis que l'Union européenne a dénoncé un climat d'intimidation.
Et Washington a dénoncé lundi les conditions de tenue de ces législatives remportées par les alliés du président Vladimir Poutine. Le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, a affirmé dans un communiqué que les Russes avaient été empêchés d'exercer leurs droits civiques. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée ce soir Nathalie Barge.
La Commission économique pour l'Afrique de l'ONU et la Chambre de commerce internationale ont lancé des centres d'entrepreneuriat en Afrique. Ces centres travailleront avec des entreprises, des universités et des agences gouvernementales. Ils auront pour objectif de connecter les entrepreneurs locaux aux marchés mondiaux, soutenir les petites et moyennes entreprises et encadrer les start-up. United Airlines va lancer 3 vols hebdomadaires entre Washington et Lagos le 29 novembre, marquant son retour au Nigeria après son départ en 2016. Seul le transporteur américain Delta Airlines relie les deux pays entre Lagos, New York et Atlanta. En mai dernier, United Airlines a repris ses vols vers Accra au Ghana après 9 ans d'absence. L'Africa Finance Corporation, spécialisée dans la fourniture d'infrastructures, prévoit de lever 2 milliards de dollars sur 3 ans pour financer des projets climatiques en Afrique. Le Fonds pour la résilience climatique des infrastructures permettra de soutenir des projets visant à réduire les émissions de carbone et de construire des infrastructures durables, a précisé le président de cette institution panafricaine, Samaila Zoubero.
En transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Les matchs retour du premier tour des préliminaires des interclubs de la CAF ont donné leur verdict le week-end écoulé. En Ligue des champions, les Congolais de Maniema Union sont qualifiés pour le second tour. Après leur succès 2-0 face aux Gabonais de Bougouindi Sport, ils affronteront les Sud-Africains d'Amazulu à l'étape suivante. Qualification également pour les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, deux fois vainqueurs 1-0, des Sénégalais de Tenguef et des deux clubs congolais l'AS Otoo d'Oyo et Kara de Brazzaville. Déception par contre pour les Guinéens de Kamsar, éliminés sur un seul match et à l'extérieur par les Ghanéens d'Art of Hawk. Ça ne passe pas aussi pour les Camerounais de Fovu de Baham, sortis par les Angolais de Petro Atlético, tout comme les Béninois d'Ezae, battus 2-0 par les Mauritaniens du FC Nouadhibou. Le stade malien de Bamako a battu l'AS Onabel du Burkina Faso sur le score de 3-0 et sera donc présent au prochain tour. Pour le coach du stade malien de Bamako, Jean-Christophe, son plan de jeu a bien marché.
Très heureux, très fier. Je félicite mes joueurs qui ont respecté les consignes, le plan de jeu mis en place. Certes, la victoire 3-0 est peut-être ne reflète pas la différence parce que l'équipe de l'AS Onabel est une bonne équipe avec un gros potentiel offensif. Mais comme je les avais observés, j'avais travaillé dessus. Mes joueurs connaissaient aussi bien cette équipe. Et le plan de jeu qu'on a mis en place pour contrecarrer leur offensive a bien fonctionné.
Jean-Christophe, coach du stade malien, des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. En Coupe CAF, les Béninois des Buffles du Bourgou ont été éliminés par les Marocains du Phare de Rabat malgré le match nul 0-0. Les Marocains ayant gagné 3-1 au match aller, l'aventure s'arrête aussi pour les Ivoiriens de San Pedro battus par les Burkinabés de l'Asfa Yenega, tout comme les Gabonais de Manga Sport éliminés par les Botswanais d'Orapa United. Grosse performance en revanche pour les Maliens de Binga FC. Les pensionnaires de deuxième division ont battu deux fois les Libériens de Brewiris. Aza Concorde a aussi réussi l'exploit de renverser 4-0 l'ASKO de Kara qui l'avait battu 3-0 à l'aller. On enchaîne avec les sports demain suite à des matchs de l'afrobasket féminin qui se déroule à Yaoundé au Cameroun. La Côte d'Ivoire s'est inclinée devant le Mali vainqueur 76-63. C'est la seconde victoire pour les Maliennes qui avaient battu les Tunisiennes d'entrée. Deuxième victoire également pour le Sénégal 76-63 face à l'Égypte. Après son succès devant la Guinée, à noter qu'en ouverture, les Nigérianes tenantes du titre ont battu les Mozambicaines 67-50.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Suite à des informations persistantes d'un éventuel accord entre le Mali et la compagnie de sécurité privée russe Wagner, le ministre des Affaires étrangères du Niger fustige les autorités de la transition malienne. En réponse, le Conseil national de la transition du Mali s'interroge dans un communiqué sur les vrais motifs de ce pays ami et frère. Modibo Dembélé a joint à Bamako un membre du Conseil national de la transition, Nahum Sarr.
Le ministre des Affaires étrangères, il a porté atteinte à la souveraineté de notre pays en voulant s'ériger en donnant des leçons. Donc nous estimons qu'il n'est pas dans son rôle, qu'il a outrepassé ses fonctions, il a violé les rapports d'amitié qui existent entre nos deux peuples qui ne remontent pas à aujourd'hui. Il a porté atteinte à l'amitié entre le Mali et le Niger qui remonte à Amanine Diori, à Sénine Kouté et autres. Donc nous condamnons ses propos, nous sommes scandalisés et indignés et nous exigeons que ce monsieur ne parle plus jamais de notre pays en des termes aussi condescendants comme il l'a fait. Mais nous sommes très heureux de la réaction du peuple nigérien. Plusieurs personnalités au Niger ont fait des sorties pour le mettre dans ses petits souliers et nous attendons qu'il présente des excuses publiques au peuple malien. En tout cas, il ne reflète pas la pensée du peuple nigérien.
Monsieur Sarr, des informations circulant sur la toile font état de la signature d'un éventuel accord de coopération militaire entre le Mali et la compagnie privée de sécurité russe Wagner. Qu'en est-il exactement?
En tout cas, la réaction de l'ex-puissance coloniale est une réaction disproportionnée, inacceptable. Nous sommes un pays souverain et nous sommes libres de signer des conventions pour que ces conventions soient licites avec n'importe quel pays. Donc, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Lorsque le gouvernement français signe des conventions avec la société Amarante Internationale, qui est une société française de défense, pour opérer dans des pays étrangers comme le Sahel, est-ce que nous en offusquons? Non. En tout cas, nous sommes un pays indépendant et souverain. Et cette souveraineté sera totalement garantie. Cette souveraineté sera jalousement défendu. Je n'ai vu aucun contrat, il n'y a rien d'officiel. Je ne souhaite pas m'étendre sur des sujets alimentés par la rumeur.
Le premier ministre du Mali, en la personne du docteur Choguel Kokala Maïga, estime dans une de ses sorties que les élections ne sont pas sa priorité. Est-ce que cela signifierait que le gouvernement envisage de proroger les délais impartis à la transition?
Vous savez, la prorogation de la transition, ce n'est pas par un discours, ce n'est pas par une interview qu'on le fait. La prorogation obéit à des règles. C'est une charte qui a été adoptée par le peuple malien. La prolongation consiste donc à modifier cette charte. Ensuite, il y a le plan d'action du gouvernement adopté par la représentation nationale. Et ce plan d'action est clair. Les élections se tiendront aux dates indiquées. Jusqu'à présent, il n'y a pas de modification. Je ne vois pas pourquoi on est dans les préjugés, on est dans la supputation. En tout cas, il est clair que notre pays déploiera son agenda à lui, l'agenda dans nos intérêts, dans l'intérêt de notre qui est aujourd'hui de libérer notre territoire, qui est de permettre le retour des réfugiés et d'enclencher un processus de normalisation, de retour à l'ordre constitutionnel.
C'était Nahum Sarr, membre du Conseil national de la transition du Mali, au téléphone de Modibo Dembélé.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En République centrafricaine, la suspension des opérations de déminage des mines antipersonnelles par la MINUSCA dans le nord-ouest suscite des réactions dans le pays. De nombreuses voix s'élèvent pour demander la reprise de ces opérations. À Bangui, pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Début septembre, la MINUSCA annonce à la grande surprise la suspension des opérations de déminage lancées il y a quelques mois en arrière dans l'ouest et le nord-ouest centrafricain. La mission de l'ONU dénonce plusieurs entraves à l'exécution des travaux. Abdelaziz Fall, porte-parole militaire de la MINUSCA.
Quand on a commencé la dépollution, on a dû nettoyer un tronçon de 40 km à partir de Ingiabouar jusqu'à Bondiba. Donc arrivé à Bondiba, on a vu la force de la MINUSCA être entravée de continuer le nettoyage. témoignages, soi-disant que les éléments qui étaient en charge du nettoyage étaient de connivence, de collusion avec le groupe armé et que nous disposons même des mines que nous donnons au groupe armé. Nous condamnons avec force ces allégations. La MUSCA n'a jamais utilisé de mines, donc actuellement le processus de déminage est à l'arrêt. Nous attendons de trouver une issue rapidement pour reprendre.
Cette annonce a créé une vive consternation à travers le pays. Martin Zigile, député de Bokaranga et président du mouvement de libération du peuple centrafricain.
Nous voulons que les populations circulent librement, que ce soit la MINUSCA, que ce soit la réponse du gouvernement, mais nous les appelons solennellement à s'asseoir et à se mettre d'accord pour déminer les routes dans ces zones. Parce que la population est prise en étau entre les groupes armés, les différentes forces sur le terrain, et ce sont les populations qui meurent.
L'inquiétude est d'autant plus grande chez les défenseurs des droits humains. Pour Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, la présence de ces mines antipersonnelles a contribué à détériorer la situation des droits humains en Centrafrique.
Les mines terrestres, ce sont des engins qui peuvent rester sous terre pendant 50 ans. D'abord, un, il faut que cette guerre se termine. Deux, qu'on démine les endroits parce que les mines sont tellement dangereuses que ça peut tuer un cabri, ça peut tuer un mouton, ça peut tuer un enfant, ça peut tuer une femme, ça peut tuer n'importe qui n'a rien à voir avec la guerre. La MINUSCA ne doit pas être émotionnelle pour dire que oui, mais plus on m'a accusé, moi je ne fais plus rien. C'est pas normal.
À l'Assemblée nationale, les élus de la nation s'interrogent aussi sur le maintien de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine par l'ONU, alors que les groupes armés peuvent se procurer des mines antipersonnelles. Jean-Soustaine Dengbe, président de la commission défense.
On dit que l'embargo est jeté sur les armes qui viennent à destination des FACA qui sont des loyalistes.
Les autorités de Bangui, conscientes des dégâts causés par ces engins explosifs, renvoient la balle en touche. Albert Yalokimokpem, porte-parole de la présidence centrafricaine, annonce un dispositif pour la reprise et la sécurisation de ces opérations de déminage.
Nous dénonçons avec la plus grande vigueur ce type de situation. C'est des choses qui sont interdites. Ils ont suspendu ces opérations parce qu'il y a toujours des menaces dans ces coins-là.
Depuis la contre-offensive de l'armée et ses alliés russes contre les rebelles de la CPC, ces derniers ont piégé plusieurs axes avec des engins explosifs pour ralentir la progression des forces régulières. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Bénin, c'est la rentrée des classes ce lundi. Dans une décision prise en Conseil des ministres il y a quelques jours, le gouvernement rend obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les enseignants. Une stratégie qui, selon le gouvernement, va protéger les élèves et même les enseignants. La Confédération générale des travailleurs du Bénin n'est pas de cet avis. Pour ce syndicat, la vaccination doit être un acte libre et non une obligation. Des précisions avec Ginette Fleur Adandé, notre correspondante au Bénin.
La campagne de vaccination anti-Covid se poursuit au Bénin avec son lot de mécontents depuis que l'accès aux sociétés d'État et tout autre établissement public est interdit à toute personne n'ayant pas son carnet de vaccination. Pour cette rentrée des classes, le gouvernement recommande également la vaccination aux enseignants et personnels administratifs des établissements publics et privés. La CGTB, à travers son secrétaire général, Mundassé Obachabi, demande au gouvernement de laisser à chaque enseignant le choix de se vacciner ou non.
Nous devons tout observer la prudence au maximum et faire en sorte que personne ne nous influence dans notre choix. Mais en même temps aussi, qu'on ne commence pas l'erreur de nous exposer aux sanctions en disant que nous faisons une barrière, c'est une méthode qu'il ne va pas payer. La CETB va toujours faire ses investigations, trouver les éléments qu'il faut et à chaque fois que c'est nécessaire, on apportera les informations pour permettre à chacun de décider selon son libre choix.
La décision est diversement appréciée par les parents d'élèves. Pour certains, c'est trop tôt pour forcer la main aux enseignants, mais d'autres se réjouissent, estimant que le gouvernement pense au bien-être des enfants.
Beaucoup ont émis des hypothèses sur les vaccins. Là, il y a ça là aussi qui dit, bon, lorsque vous vaccinez, il y a tel, c'est du faux et qu'on sort, c'est pas de bons produits. Il y a tout ça qui a amène la population à être aujourd'hui réticente par rapport à la vaccination.
C'est une bonne décision, vu les temps qui courent là. C'est une bonne décision. Et c'est que nous, on souhaite que ça soit rendu obligatoire à tout le monde et que les vaccins soient surtout disponibles.
J'estime que les populations ont raison à un moment donné d'avoir des réticences. Maintenant, c'est au gouvernant de rassurer aux populations.
Dimanche, certains enseignants sont sortis se faire vacciner. La joie de retrouver leurs élèves étant plus forte que les rumeurs sur le vaccin et ses effets secondaires.
Moi, je suis enseignant. En matière d'enseignement, je connais le béaba. Mais en matière de la santé, les personnes habilitées, les cibles qui devraient et nous dire de quoi est question, mais vraiment, nous avaient laissé.
La difficulté que nous avons, c'est que la maladie n'a pas commencé au Bénin. Nos scientifiques devraient nous rassurer, nous dire, voilà, allez avec, c'est bon.
Sur le site, il y a également des enseignants venus sonder le terrain. Ils veulent bien se faire vacciner, mais estiment n'avoir pas les informations nécessaires. Bientôt, ce sera le tour des élèves âgés d'au moins 12 ans d'être vaccinés. Selon Benjamin Rumpati, ministre de la Santé, c'est toujours dans le but de les protéger.
Des vaccins sont indiqués pour ces cibles-là. C'est fait déjà dans les autres pays. Et lorsque nous allons avoir ce type de vaccin également, nous allons recommander que ces cibles également puissent être vaccinées. Tout sera mis en place pour faire en sorte que les mesures barrières soient respectées déjà pour la rentrée, mais également que l'incitation du personnel enseignant adulte à se faire vacciner.
De Cotonou, Ginette Leu dans les Pouvoirs Afrique.
New York accueille cette semaine l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'un des premiers grands rassemblements de l'ONU depuis le début de la pandémie de COVID-19. Plus d'une centaine de dirigeants du monde sont attendus à ce rendez-vous. Margaret Becher, correspondante de VOA aux Nations Unies, fait le point. Le récit est de Mohamedou Onfa.
Pandémie de Covid oblige, c'est une assemblée restreinte qui s'ouvre mardi. Les dirigeants mondiaux ont la possibilité d'y assister physiquement, mais avec une petite délégation ou d'envoyer un message vidéo. Quelques 125 dirigeants sont attendus à New York où ils aborderont des problématiques urgentes. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
Our world is heading towards a new abnormal, more chaotic.
Notre monde va vers une direction anormale, plus chaotique, plus précaire, plus dangereuse pour tout le monde.
La semaine va commencer par des discussions sur le climat. Monsieur Guterres et le Premier ministre britannique Boris Johnson vont rencontrer quelques dizaines d'autres dirigeants. Leur objectif est d'encourager des actions plus ambitieuses pour ralentir le réchauffement climatique et le financement des efforts d'adaptation et d'atténuation avant une conférence cruciale sur le climat prévue en Écosse dans 6 semaines. Antonio Guterres.
We really are out of time. We must act now.
Nous manquons de temps. Agissons maintenant pour éviter d'autres dommages irréversibles.
L'autre priorité est de mettre fin à la pandémie de COVID-19 grâce à la vaccination. L'OMS a fixé à mi-2022 l'échéance pour vacciner 70% de la population mondiale, mais les pays les plus pauvres ne sont pas en voie d'atteindre cet objectif. Mercredi, le président américain Joe Biden va convoquer une réunion virtuelle sur les moyens de freiner la propagation du virus. Linda Thomas Greenfield, représentante américaine à l'ONU.
Le président Biden s'est engagé à diriger de concert avec nos alliés à travers le monde les efforts pour arrêter la pandémie de COVID-19. Nous construisons une coalition de gouvernements, d'entreprises, d'institutions internationales et de la société civile pour accélérer la production et l'accès aux vaccins, aux traitements et renforcer les systèmes de santé dans le monde.
Outre ces deux sujets brûlants, il y a aussi une dernière crise géopolitique, l'Afghanistan. Richard Gowan, directeur à l'ONU de l'ONG International Crisis Group.
L'Afghanistan représente un énorme défi humanitaire pour les Nations Unies et ce seront ces agences qui seront chargées de soutenir les Afghans pendant la période de famine et de chaos politique.
Les ministres du G20 se réunissent mercredi pour discuter de l'Afghanistan. La prise du pouvoir par les talibans devrait figurer en bonne place dans les discours des dirigeants occidentaux lors de l'Assemblée générale, notamment sur la nécessité de soutenir les progrès réalisés en matière des droits des femmes et des filles. Richard Gowan d'International Crisis Group.
L'Assemblée générale ne peut pas faire grand-chose pour forcer les talibans à protéger ses droits.
À partir de mardi, les dirigeants vont s'adresser à l'Assemblée générale. L'une des déclarations les plus attendues sera celle du président Joe Biden, qui va s'adresser pour la première fois à la tribune des Nations Unies. Avec seulement une semaine pour débattre d'autant de sujets urgents, les dirigeants auront peu de temps pour profiter de New York, qui a commencé à rouvrir ses musées, ses restaurants et ses théâtres.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Manirakidza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube.